enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème ce matin sera « Garder l'onction ». Garder l'onction. Vous savez, prêcher n'est pas toujours chose simple. Parce qu'en fait, ce n'est pas prêcher qui est difficile. C'est qu'est-ce que, Seigneur, tu as à dire à ton peuple qui est important. Nous savons prêcher. Des prédications, nous en avons. Il suffirait de se dire, j'en prends une et je la prêche. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il nous faut chercher la face de Dieu. Il nous faut demander, qu'as-tu à dire à ton peuple ? Et alors que je priais, les jours passaient, et je ne savais toujours pas encore ce que je devais vous annoncer. Et plus le temps passe, plus le prédicateur stresse. Et plus il stresse, plus le temps passe. Et alors que mon temps était réduit au maximum, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, parle-moi. Et c'est là qu'il m'a parlé. Et je vais vous lire simplement une phrase, celle qui m'a donnée et qui m'a interpellé et bouleversé. 2 Samuel, chapitre 1, verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Point. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Point d'interrogation. Lorsque j'ai lu ce texte, au moment où je le lisais, l'Esprit de Dieu m'a visité. Je devais retenir mes larmes pour ne pas pleurer. À la question que pose David, comment des héros sont-ils tombés ? Pourquoi des hommes ? Pourquoi des femmes choisis de Dieu, ayant reçu des promesses de Dieu, ont-ils terminé de manière misérable et dramatique ? C'est ce que je me propose avec vous de voir ce matin, d'essayer de comprendre afin qu'ô Dieu, nous soyons gardés des mêmes chutes. Et j'aimerais, au travers de l'histoire de Saül, analyser ce qui s'est passé pour que nous tirions des enseignements et que nous-mêmes, alors, tenant compte des enseignements que la parole nous donne, de façon à partir un jour de ces, entre guillemets, héros qui sont tombés. Que t'est-il arrivé, Saül ? Toi que l'Éternel avait choisi, toi sur qui le prophète avait parlé, toi que Dieu avait oint, que s'est-il passé, Saül ? Toi qui étais destiné à de grandes choses. Écoutez, 1 Samuel 9, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? Saül répondit, ne suis-je pas un Benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ? Chapitre 10, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Toujours au chapitre 10, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Un peu plus loin, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu des prophètes. Un peu plus loin encore, vous voyez celui que l'Éternel a choisi et ce sont là les paroles de Samuel le prophète. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris, vive le roi! Mon frère, ma sœur, des promesses extraordinaires sortant de la bouche du prophète et venant de Dieu, adressées à un homme, Saül, destiné à un avenir merveilleux. Il avait tout pour lui. L'onction reposera sur lui. Il prophétisera au milieu des prophètes et Dieu donnera succès à ses entreprises. Mais que s'est-il donc passé, Saül, toi loin de l'Éternel? Toi que chérissais Samuel le prophète, au stade où Dieu va parler sévèrement à Samuel, son prophète, en lui disant « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Samuel ne pouvait pas comprendre comment Saül, cet homme de Dieu, choisi de Dieu, ait pu tomber de cette manière. Comment des héros sont-ils tombés? Voilà la complainte de David avec un point d'interrogation. Comment sont-ils tombés? Mon frère, ma sœur, ce matin, quelle fin dramatique. Et Saül prit son épée dans 1 Samuel 31 et se jeta dessus un homme de Dieu qui se suicide. Il se suicide loin. Se suicide. Pourtant, il avait tout pour lui. Pourtant, les promesses abondaient pour lui. Et il deviendra le sujet de joie de ses ennemis. Voyez sa fin. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Combien de frères, de sœurs, combien d'hommes bénis et oints sont tombés sur le champ de bataille? Combien ne sont plus au milieu de nous? Et je ne voudrais pas limiter aux quatre murs de cet endroit. Combien d'hommes et de femmes, oints par Dieu, sont tombés? Combien d'églises doivent déplorer la mort de héros? Combien doivent déplorer des hommes et des femmes qui avaient reçu des promesses que Dieu avait destinées à un avenir merveilleux, mais ils ne sont plus? Non, non, l'ennemi de leur âme se réjouit. Il n'y a pas qu'eu des héros qui sont morts sur le mont Gilboa, sur les monts de Gilboa. Il y a eu des héros qui ont chuté dans nos églises. Il y a eu des héros qui ont chuté dans l'église de Jésus-Christ dernièrement encore. J'apprenais la chute d'un grand serviteur de Dieu. Et revient cette question, pourquoi des héros sont-ils tombés? Écoutez bien, à sa mort, ses ennemis, les Philistins, répandirent la bonne nouvelle dans les temples des idoles et partout. Combien de fois les démons fêtent-ils la chute d'un héros? Combien de fois en enfer y a-t-il de la joie parce que des héros sont morts? Et dans tout l'enfer se répand le bruit, un de plus a chuté et perdu la foi. Pourquoi? C'est la question que nous allons ce matin nous poser. Pourquoi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des croyants et des croyantes appelés du Seigneur furent-ils touchés par les traits enflammés du malin? Pourquoi? Mon message se séparera en deux grands points. Premier grand point, comprendre l'importance et le rôle de l'onction de l'Esprit. Deuxième point, comment peut-on perdre l'onction? Tout d'abord, mon premier point, comprendre l'importance et le rôle de l'onction de l'Esprit. Voyez-vous, dans la complainte de David, eh bien, il y a une précision qui nous est donnée, qui est de la plus haute et de la plus grande importance. Écoutez bien ce que David écrit là, alors qu'il pleure sur Saül et sur ses fils qui venaient de se faire tuer. Il est dit « Montagne de Gilboa » de Samuel 1:21, « qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là, ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile, a cessé de les oindre. » Écoutez bien. L'huile a cessé de les oindre. Le bouclier, tout au long de la parole de Dieu, symbolise la protection divine. Voyez ce que David dit dans 2 Samuel 22. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Dans le psaume 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et je pourrais énumérer bien d'autres versets dans lesquels l'Éternel est bien proclamé comme le bouclier du croyant. Paul, vous le savez, nous parle lui aussi d'un bouclier. Dans Éphésiens, il nous est écrit la chose suivante, prenez par-dessus tout Éphésiens 6, 16, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est avec le bouclier de la foi que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Généralement, les boucliers de l'époque étaient un cadre en bois couvert de cuir. Et le cuir était imbibé dans l'huile, parce que l'huile, eh bien, on garantissait l'étanchéité, évitait au cuir de se dessécher, et troisièmement, permettait à ce que les flèches, les traits, eh bien, dérapent, glissent sur le bouclier et soient déviés. L'huile évitait le dessèchement du cuir. Elle garantissait l'étanchéité, ceci pour que le bouclier remplisse bien son rôle afin de ne pas mettre en danger celui qui était derrière. Mais écoutez bien, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Et écoutez comment il fut atteint. 1 Samuel 31. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent gravement. Manifestement, Saül, ton bouclier ne t'a plus protégé. Les traits, les flèches t'ont atteinte. Tu es maintenant là, moribond. Tu demandes ton serviteur de te tuer. Il n'en a pas le courage, alors tu te suicides. Et ensuite, le serviteur se suicidera après toi, car voyez-vous, quand un héros tombe, souvent il entraîne des gens dans sa chute. N'oubliez jamais cela. Quand un héros tombe, il entraîne des hommes et des femmes dans sa chute. L'huile noignait plus son bouclier. Ce qui est arrivé, et c'est pour cela que j'étais ému quand Dieu me parlait, l'Esprit me parlait, et me disait, regarde ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé à Saül physiquement n'est en fait que la manifestation visible de ce qui lui est arrivé bien avant spirituellement. Ce qui lui est arrivé physiquement, ce que le peuple pouvait voir, n'était finalement que la manifestation de ce qui dans l'esprit, dans le monde spirituel, c'était déjà produit bien auparavant. L'onction de l'esprit s'était retirée de lui et un autre esprit l'habitait. L'esprit de l'Éternel, 1 Samuel 16, se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Toute sa manière de se conduire, alors qu'il était encore à l'apparence à la tête du peuple, puisqu'il va poursuivre David encore pendant 15 ans, dans le seul but de le tuer, montre à quoi est réduit l'homme sans onction et vous permet de comprendre l'importance de l'onction. Quand l'onction se retire, que se passe-t-il quand l'onction se retire ? La confiance en Dieu n'est plus. Rappelez-vous, Goliath se dresse devant l'armée d'Israël. Saül, loin de Dieu, a peur. Il n'est déjà plus le héros. Il a les vêtements du roi. Il a les armes du roi. Mais il n'est plus loin de Dieu. Il est paralysé avec son armée. Arrive David. Et lorsque David vient avec sa foi fraîche, son onction fraîche, Saül ne comprend plus son discours parce qu'ils ne sont plus animés par le même esprit. L'esprit des oints est différent de ceux qui ont perdu l'onction. Le langage de ceux qui sont oints n'est pas le même de ceux qui ont perdu l'onction. Des incompréhensions s'installent. Tu vas pas pouvoir y aller comme ça. Celui qui a perdu l'onction va s'appuyer sur sa propre chair. Celui qui a perdu l'onction ne peut plus voir et avoir cette foi en Dieu qui va le faire triompher. Non, il va s'appuyer sur son savoir, il va s'appuyer sur ses armes, sur sa cuirasse, sur son bouclier. Et c'est ce qu'il va imposer à David. Mets ma cuirasse, prends mes armes. La Bible dit qu'à ce moment-là, David, il n'avait pas bu, il titubait. Parce que l'armure était trop lourde. Les moyens de la chair pour le combat de Dieu ne correspondent pas au plan de Dieu. Et lorsque l'onction se retire, malheureusement, les pasteurs, l'église, les croyants sont réduits uniquement à des solutions humaines. Mais les solutions humaines nous écrasent. Elle nous empêche de faire l'œuvre de Dieu, car Dieu seul peut faire son œuvre au travers de nous. Il est tourmenté. L'homme de qui l'onction se retire, la femme de qui l'onction se retire, devient un homme, une femme tourmentée. Il devient jaloux. Les femmes chantaient. David a abattu. Saül, c'est 1000. David, c'est 10 000. Il ne supporte pas cela. Il devient violent. Écoutez. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Il ne supporte plus. Écoutez bien. Il ne supporte plus loin de l'Éternel. Il ne supporte plus l'onction. Il en a même peur. Il va éloigner David, l'homme moins. 1 Samuel 18, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il l'éloigna. Il l'éloigna. Lorsque l'onction se retire, tu ne supportes plus les gens d'onction. Parce que tu n'as plus le même discours. Parce que tu ne comprends plus les choses de Dieu comme ils les comprennent. Parce que tu n'as pas la foi qu'ils ont. Une foi animée par Dieu. Il craint la réussite de David. Il est effrayé par son succès. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Il avait peur. Peur. De David. En France, c'est un signe manifeste. Quand une église avance, elle fait peur au lieu d'encourager. On s'en méfie. Il est manifeste que quand un ministère est loin, très souvent il devient la cible des autres. Bizarrement. On a peur. Le succès de l'autre nous agace, nous énerve. On va chercher toutes sortes d'explications. Parce que l'onction n'est plus. Permettez-moi une courte analyse direction de Saül. Ce n'est plus la foi en Dieu qui l'anime. Il se maintient à son poste. Mais écoutez bien, le poste de roi où il est un poste où Dieu l'ami. Maintenant, il n'est plus qu'un figurant. Il n'est plus que l'homme de théâtre. Il n'a plus que les vêtements d'apparence, les vêtements d'apparat. Mais celui qui l'a mis en place l'a déjà destitué, même si physiquement il est encore présent. Alors il va essayer de se maintenir. Il va essayer de se maintenir avec les moyens de la chair. Il va analyser tout ce qui se passe autour de lui au travers de la chair. Saül me fait penser à tous ces dictateurs romains, les Caligula, Néron et autres, qui étaient obsédés par le fait que quelqu'un pourrait les tuer. Tout ce qui était plus fort qu'eux, meilleur qu'eux, ils s'en méfiaient et le tuaient. Il y a des hommes et des femmes qui sont croyants et qui pourtant vivent de la même manière. Tout ce qui bouge autour d'eux, ils se sentent le besoin de l'étouffer. Ils en ont peur. Ça les agace. Ils craignent la réussite de David, de peur d'être destitué par lui. Mais ils oublient que David est un homme de Dieu. David ne se bat pas avec les armes de Saül. David est loin de Dieu, se bat toujours avec les armes de Dieu. Non, David a une profonde compassion pour Saül. Après sa mort, il ne fait pas la fête. Mais alors qu'un vantard vient lui annoncer sa mort en disant que c'est lui qui l'a tué, comme s'il rendait service à Saül, à David, David le fera exécuter. Il pleurait. Où sont les héros? Où sont les héros? Lui, il n'était plus sur ton bouclier, David. Saül, pardon. Lui, il n'était plus sur ton bouclier. Combien d'hommes, de femmes de Dieu n'ont plus l'onction? Il n'y a pas besoin d'avoir un ministère pour avoir l'onction. Vous êtes tous appelés des hommes et des femmes oints par le Saint-Esprit. Tous. Il n'y a pas une élite de oints. Vous êtes tous appelés à être sacrificateurs avec Christ. Vous êtes tous oints pour un service sacré. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. L'onction, lui, il n'était plus sur le bouclier. Paul nous rappelle que notre bouclier à nous, c'est la foi. Quand l'onction ne revêt plus ta foi, tu deviens sec. Tu te dessèches. Le cuir se desséchait parce que l'huile ne le nourrissait pas. Tu peux commencer ta vie en Christ avec une foi, loin d'en haut, l'Esprit t'anime. Tu as un saint désir d'annoncer l'Évangile. Tu aspires à la sainteté. La prière, c'est ton plaisir. Et t'approcher ton Dieu, de Dieu, c'est ton bien. Mais quand l'huile n'est plus, tu te dessèches. Tu deviens religieux. Tu commences à fixer des règles. Et tu juges les gens au travers des règles qu'ils t'ont fixées. C'est la longueur de leurs cheveux. C'est la longueur de leurs pantalons. C'est toutes sortes de choses, leur manière de chanter, leur musique, et on juge, comme si tout d'un coup on était devenu dépositaire de la valeur étalon de ce qui est spirituel et de ce qui ne l'est pas. Alors qu'on en est réduit à une foi remplie d'incrédulité. Voyez-vous, l'huile empêchait l'eau de pénétrer le cuir. Quand l'onction n'est plus, la foi se fait pénétrer par l'incrédulité. La foi se fait pénétrer par le doute. La foi se fait pénétrer par les compromis. La foi se fait pénétrer par le péché. Et c'est ce qui vous explique que vous avez des chrétiens qui pêchent allègrement sans que ça ne leur fait quoi que ce soit. Sans que ça ne les dérange. Rappelez-vous cela. Saül avait en apparence aux yeux du peuple encore les habits et la fonction de roi. Mais aux yeux de Dieu et dans la réalité, il n'occupait absolument plus qu'un poste parce que l'onction et la grâce se manifestaient ailleurs sur David. Je veux dire là quelque chose d'important. Ceux qui ont perdu l'onction, sont souvent au milieu du peuple de Dieu. Ils ont encore l'apparence de chrétiens. Ils chantent les mêmes cantiques, prient les mêmes prières, lisent la même Bible. Ils sont comme les vierges sages et les vierges folles. En apparence, elles avaient toutes le même vêtement. Elles avaient toutes une lampe. Mais la différence, c'est l'huile. La différence, c'est l'onction. L'onction brise le joug. Ce n'est pas ta culture, ce n'est pas toute ta connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, même si c'est une bonne chose. C'est l'onction qui fait toujours la différence. Toujours. David va faire la différence avec Goliath à cause de l'onction qui était sur lui. Saül ne fera pas la différence parce que l'onction n'était plus là. Enfin, ma sœur, dans une même église, dans un même lieu, des croyants qui viennent louer le Seigneur en apparence et qui à la maison sont comme des païens. Comme des païens. Mon fils avait dessiné un petit dessin, je ne sais pas si je pourrais l'avoir, je ne sais pas si vous le verrez. Ça m'a permis de voir ce qu'il fait pendant le culte, c'est intéressant. Mais son petit dessin m'a plu. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? D'un côté, vous avez quelqu'un qui chante à l'église « Alléluia ». De l'autre côté, il est à la maison. Et il est en train d'hurler « Quoi? C'est pas encore prêt ?» D'un côté, il est beau, en costard. De l'autre côté, il est en caleçon, il sent des pieds. Le fait de sentir des pieds ne veut pas dire que vous avez perdu l'onction, j'aimerais le dire, c'est important. J'en vois déjà qui vont rentrer. Ceci pour le bonheur de leur épouse, finalement. Hein? Partagez. Deux visages. L'onction n'est plus. Comme Saül. Certains chrétiens voient d'un mauvais œil ces jeunes croyants remplis de zèle et du Saint-Esprit. Ça les dérange. Écoutez bien ce qu'ils disent. J'ai réfléchi un peu sur tout ce que j'ai entendu au travers des années. Quand ils voient que des jeunes croyants sont enthousiastes, témoignent, prient, Dieu les exauce, ils ont même des guérisons, les démons fuient. Ça ne plaît pas. À ceux qui sont là depuis un temps, qui ne vivent plus rien. Alors écoutez bien, ils les observent comme Saül, les jalouses, les critiques, les découragent en leur disant « Ouais, moi j'étais comme toi avant. J'avais de l'enthousiasme comme toi. Attends un peu. Tu verras, l'église n'est pas parfaite. Quand tu seras déçu 2-3 fois, quand tu te rendras compte que dans l'église, il n'y a pas d'amour. » Tiens, on dirait qu'il y en a qui ont déjà entendu ça. « Il n'y a pas d'amour dans l'église. » Eh bien là, tu vas voir combien tu vas tout doucement freiner. C'est pas eux qui sont justement en train de manifester de l'amour. Ils essayent d'éteindre le feu qui est là. Et je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien, souvenez-vous de cela toute votre vie. L'onction dérange toujours celui qui l'a perdu parce que la vie met en évidence la mort. Plus il y a de vie, plus la mort est mise en évidence. Plus ça bouge, plus les immobiles se sentent concernés. Quand vous avez 2000 immobiles, ça va bien, tout le monde est content. On est bien, on a même pris racine. Ça fait 50 ans qu'on chante le même cantique, c'est beau. Avec presque la main sur le cœur. Arrive là au milieu, quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Oh frère, on va changer les habitudes. On va sortir, on va annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Frère, Jésus guérit les malades. Les immobiles sont gênés. Qui vient nous déranger? Parce qu'ils commencent à ressentir de la culpabilité. Et ils commencent à se rappeler de ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient loin. J'avais le même zèle que lui. J'avais le même feu que lui. Je ne l'ai plus. À ce moment-là, deux choses. Où tu te repens, tu reviens à l'Éternel qui te fera grâce. où ta langue va devenir comme la lance de Saül qui cherchait à tuer David. Des langues se sont transformées en lances. Saül prit sa lance pour transpercer David. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui utilisent leur langue pour transpercer leur prochain. Parce qu'ils sont gênés de leur propre sécheresse. L'onction vivifie, mais si elle n'est plus là, êtes-vous les temples du Saint-Esprit ? Regardez votre voisin, dites-lui, tu es le temple du Saint-Esprit. Schmerber, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça paraît drôle, mais c'est vrai. Martine, tu es le temple du Saint-Esprit. Louis, tu es le temple du Saint-Esprit. Qui est d'accord de dire « Je suis le temple du Saint-Esprit » ? Hello ! Si le Saint-Esprit n'est plus là, tu es quoi ? Je vais te dire ce que tu es. Tu es comme les bâtiments d'église qui sont vides. Qu'est-ce que l'église ? Les murs ? Non, c'est vous. Pourquoi il y a de la vie dans l'église ? À cause des murs ? Non, à cause de vous. Si on vide cette église, il n'y a plus de vie. Ça sentira le renfermé et la poussière. Et il y a des croyants qui sentent le renfermé et la poussière. Parce que ils ne sont plus que des coquilles vides. Ils chantent « Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. » Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui les habite. Ou bien alors, que d'autres les habitent. Si tu es le temple du Saint-Esprit, souviens-toi que lorsque l'Esprit part, tu n'es plus qu'une coquille vide. Après, tu deviens un maître d'art en théâtre et autre chose. Mais c'est plus la foi. L'onction, c'est ce qui va nourrir ta foi. L'onction, c'est ce qui va pouvoir t'amener à résister aux traits enflammés du malin. L'onction, c'est ce qui va faire de ta foi une foi forte. Une foi qui peut défier Goliath. Mais une foi également qui peut respecter même le serviteur de Dieu qui est tombé et qui te persécute. Parce que tu ne toucheras pas celui que Dieu a oint. La foi ointe par l'Esprit est une foi qui s'interdit de décourager l'autre. Elle se réjouit du succès des autres. Elle se réjouit quand ils avancent. Elle se réjouit lorsqu'ils se sanctifient. Mon frère, ma sœur, l'onction. J'en arrive à mon deuxième point. Comment peut-on perdre l'onction ? Mais donnez-vous encore un peu de temps pour cela. Je vais demander Cécile, si elle me dit oui, alors c'est que je peux continuer. Cécile ? Oui. Bon, si vous avez à réclamer, vous allez voir Cécile à la fin. Point A. On peut perdre l'onction en oubliant que tout n'est que grâce. Paul dira, car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Ah frère, quand moi je prie, les malades sont guéris. Ah bon ? C'est grâce à toi ? Quand moi je chasse les démons, ils passent. Là, les démons tremblent. Les autres prient, rien ne se passe. Ah bon ? C'est grâce à toi ? Que n'as-tu que tu n'aies reçu. Saül avait oublié que l'onction qui reposait sur lui était une grâce de Dieu, un cadeau. Écoutez bien ce que Samuel lui dit. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël quand tu étais petit à tes yeux ? Et si Dieu t'utilise pour faire de grands miracles, souviens-toi que c'est une grâce. C'est pas sur la base de ta piété. Parfois, en entendant le discours de certains, on pourrait penser que c'est à cause de leur piété, de leur sainteté, ou de leur amour, ou de je ne sais quoi encore, que les malades sont guéris, et ils sont en train de s'approprier la gloire de Dieu, comme si la gloire de Dieu reposait sur eux, parce qu'eux sont bons. C'est vous tromper. Tout n'est que grâce. C'est pas à cause de ta sainteté. Même si tu dois y aspirer. Non, c'est une grâce. La nouvelle naissance est une grâce, est-ce que vous le saviez? Je regrette peut-être que nous... Je regrette peut-être qu'aujourd'hui l'Église ait si peu de vraies nouvelles naissances. Des nouvelles naissances. Hello, des nouvelles naissances. Non, pas des gens qui viennent pour dire intellectuellement « Oui, je crois en Jésus, en plus de ça, je suis dans les embrouilles, donc ça va bien m'aider. » Non, des hommes qui sont nés de l'Esprit. Des hommes, des femmes qui sont nés d'en haut. Écoutez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés d'en haut. Vous êtes nés d'en haut. Ça va mieux, hein? Une dernière fois. Je suis né d'en haut. C'est ça la différence. Et quand tu nais d'en haut, l'Esprit de Dieu travaille déjà. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un don, c'est un cadeau. De quoi me glorifierais-je? Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça a été une grâce. Surtout que j'ai attendu pendant un an. Un an. Chaque fois qu'on priait avec moi, j'essayais d'imiter les frères. Mais enfin, je me fatiguais. Et après, j'allais devant la glace, je me regardais. Ça fait drôle quand même, hein. Et un jour, alors que je m'y attendais pas, après une prédication qui n'avait rien à voir avec ce qui me préoccupait, je m'avançais pour me repentir au sujet d'un un sujet très précis, et au moment où j'étais là, l'onction de Dieu est venue et Ramama separabado, le ciel. J'avais l'impression d'être la fusée Ariane. Hello, I'm going. Une grâce. Seigneur, merci pour le baptême dans le Saint-Esprit. Saviez-vous que les guérisons, c'est une grâce? Régulièrement, il y a des témoignages de guérison, mais on s'y est habitué, n'est-ce pas? Il y a des délivrances, les démons sont chassés. Saviez-vous que c'est une grâce? Tu chasses rien si l'Esprit de Dieu n'agit pas. Non, tu te fais chasser. C'est pour ça que je vois parfois des chrétiens dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, je te résiste, hein? Je te résiste! Mais je te résiste! Ou alors ils sont superstitieux. Faut pas dire ça. Si jamais les démons l'entendent. Mais moi j'espère qu'ils m'entendent ce matin. Pour qu'ils sachent que nous avons décidé de vivre de l'onction. Nous n'avons pas peur. Même si nous avons du respect. Nous n'avons pas peur. Mon frère, ma soeur. Pour tout cela, nous devrions manifester de la reconnaissance. De la reconnaissance. Mais parfois j'ai l'impression, ah oh, mais la guérison des malades c'est normal. Oui c'est normal, c'est écrit. Oui c'est vrai que c'est écrit. C'est vrai que c'est normal. Mais c'est vrai que cela demande toujours de la reconnaissance. Parce que c'est une grâce. Chaque malade guéri. L'autre jour, mardi, mon frère a témoigné. Mets-toi vite debout. Voilà, comme ça, mon frère a témoigné. L'autre jour, il était en route et le pneu de son camion lui a explosé à la figure. Il n'avait plus qu'un dixième sur un œil et trois dixièmes sur l'autre. Les médecins lui disaient qu'il allait perdre la vue. Notre frère est là ce matin. Ça avait explosé. Un frère était avec lui, a prié avec lui. Le lendemain, il est tout de suite venu au bureau en rentrant parce qu'il devait aller à Liverpool. En rentrant, il vient tout de suite au bureau. Il avait une tête. Mais une tête. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait de méchant pour prendre une baffe comme ça? C'était enflé de partout. Nous avons prié. La cellule à laquelle il appartient priait. Aujourd'hui, notre frère est là et il voit mieux sans lunettes. Ça, c'est la grâce de Dieu. T'avais quoi, la cornée déchirée? Fendue, hein? Un œdème dedans, derrière, la cornée fendue, etc. C'est lui. C'est lui. Lorsque je témoignais cela à quelqu'un, il me dit, mais moi, je connais un homme dont le pneu a explosé, ça l'a tué. Oui, ça l'a tué. Mais lui, la main de l'Éternel était sur lui. La différence. Deuxièmement, point B, comment peut-on perdre l'onction ? En s'habituant à l'onction. L'onction était sur Saül et il vivait en sa présence. Il avait le sentiment que tout était normal, comme si ça lui avait été donné vitam aeternam, pour toujours. Il avait oublié que onction et obéissance vont de pair. Onction et obéissance vont de pair. Et soudain, à l'aise dans l'onction, il va commencer à se prendre des libertés. Il va commencer à se faire sacrificateur à la place de Samuel. Il va commencer à offrir l'offrande comme si tout lui était permis. Comme si maintenant les règles qui étaient vraies pour les autres ne comptent plus pour lui. Il s'était habitué à l'onction. Et en s'habituant à l'onction, en manquant de reconnaissance à Dieu pour cette grâce, il a commencé à faire des erreurs monumentales qui vont lui coûter l'onction. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait, écoutez bien, c'est terrible, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Quand Dieu vous a donné une onction, vous n'avez pas besoin de jalouser votre voisin ou d'essayer de lui prendre le service que Dieu lui a confié. Parce que Dieu vous a donné un service à vous, taillé pour vous. N'essayez pas de prendre le service d'un autre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comprenez bien ? Ça ne marche pas. N'essayez pas de vous improviser autre chose que ce que Dieu vous a demandé d'être. Restez ce qu'il vous a demandé d'être, parce que c'est là que vous serez bénis. Mais on s'habitue à l'onction. Et si vous vous habituez à l'onction, ça se passe mal. Jean-Claude, viens voir. Tu es mon image préférée. Imaginez que je veuille prendre moi. Moi, je crois que Dieu donne une onction pour chacun à la mesure du service qui va être le sien. Le sacrificateur pour offrir les sacrifices, le prophète pour la prophétie, le roi pour régner. Si je lui prends son onction, regardez ce que ça donne. Tu mets la mienne. Lui, on dirait une saucisse sortie de chez Belle. Et moi, une figue sèche. Ridicule. Ridicule. Lorsque tu essayes, surtout, ne tire pas. Hein. On vient de me le donner vendredi. Écoutez bien, comme Dieu est bon. J'étais au solde. C'est horrible, les soldes. Mes frères, vous voulez souffrir ? Allez au solde. Puis j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé quelques trucs qui me plaisaient, mais et puis bon. Le lendemain, une sœur arrive chez nous. Elle dit, nous avons reçu 2 costards, mais mon mari est trop large. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ce large frère. Parce que j'ai hérité de son costard, Pierre Cardin. Eh oui, messieurs, dames. Quand on sert le bon patron, on est servi par le bon patron. Je me sens bien mieux là-dedans. Parce que ça, c'est ce que Dieu m'a donné. J'entends parfois certains prier, « Seigneur, je veux être comme Reinhard Bonnke !» Et moi je dis, « Seigneur, surtout pas. » Parce que si je n'ai pas l'onction qu'à cet homme, je mourrai à la tâche au bout de 2 jours de travail. Seigneur, je veux être Yonggi Cho. Surtout pas. Parce que si j'ai pas l'onction pour ça, je serai tué par la charge. Seigneur, je veux être ce que tu as décidé que je sois. Et là, je me réjouis. Oh Seigneur, je voudrais faire de la radio comme lui. Surtout pas. Parce que je suis incapable d'aligner 3 lignes sans 15 fautes. Claude a reçu tout ce qu'il faut pour cela. Seigneur, je veux aller dans les quartiers. Vous savez que je me suis déjà posé ces questions. Et le Seigneur me disait, toi je t'ai mis là, Bertrand, il est là-bas. Et tu lui fiches la paix et tu restes tranquille. Si le Seigneur pouvait me parler, je pense qu'il m'aurait dit « Occupe-toi de tes oignons et n'empiète pas sur le terrain de mon serviteur là-bas. » Merci à tous ceux qui ont dit « Amen ». Je sens que le Seigneur est avec vous. Je termine. Dernier point, comment peut-on perdre l'onction en ayant perdu la crainte de l'Éternel? 3 choses qui se tiennent. Oubliez que tout n'est que grâce. Deuxièmement, s'habituer à l'onction vous amène automatiquement à perdre la crainte. Le respect de Dieu. Quand tu sais que tout ce que tu es dépend de lui, alors tu as sa crainte. Mais quand tu as le sentiment que finalement tu as de l'autorité, tu guéris les malades, tu fais ceci et tu fais cela à cause de ta piété, alors tu es en danger. Saül va l'expérimenter. Mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Permettez-moi juste un extrait pour Saül. Il est dit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ?» C'est Samuel qui lui parle dans 1 Samuel 15. Saül répondit, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et un peu plus loin, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je suis stupéfait de voir avec quelle légèreté on méprise aujourd'hui les commandements de Dieu et sa parole. Je suis stupéfait de voir à quel point on pêche sans remords, on médit sans remords, on couche à droite, on couche à gauche. On vit dans la fornication, on vit en concubinage, on vit dans la débauche, mais on vient dans l'église. Je suis confondu lorsque je vois le manque de crainte de Dieu. On parle grossièrement, on maudit. Mon frère, ma sœur, écoutez ce que Paul dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Écoutez maintenant, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant la compassion. Mon frère, j'ai besoin de ton aide, je suis là pour toi. Mon frère, j'ai besoin de ton secours, je suis là pour toi. J'ai besoin de dormir, je suis là pour toi. J'ai besoin de manger, je suis là pour toi. J'ai besoin de prière, je suis là pour toi. J'ai besoin d'intercession, je vais prier pour toi. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, Éphésiens 5, 1, 9. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Hey ! Pas même nommées ! Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous avons vu l'importance de l'onction. Que l'onction puisse ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse oindre votre foi, de peur qu'elle ne se dessèche, comme le bouclier. Que la reconnaissance à Dieu Et c'est ma conclusion. Que la reconnaissance à Dieu soit toujours dans nos cœurs. Veillons à ne pas nous habituer à l'onction. Et troisièmement, apprenons l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice, car c'est là le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. J'entends parfois des discours tels que « Oui, mais on demandera pardon et puis on nous bénira. » Mes amis, nous on peut bénir personne. Si lui te bénit pas, personne peut te bénir. Personne peut te bénir. Et je termine par là. Lorsque Saül a vu qu'il était rejeté, il va attraper Samuel par le pan de sa robe. Il va se tenir, tirer sur la robe du sacrificateur au point où elle se déchire. En criant, mais ne me rejette pas, ne me rejette pas. Cependant, Samuel ne pouvait plus rien faire pour lui. Si lui ne te bénit pas, si lui ne me bénit pas, vous pourriez tous vous lever ce matin pour me bénir. Ça ne servira à rien. C'est de lui que dépendent toutes choses.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.